VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. On commence par la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 au Gabon. Deuxième journée dans le groupe A ce mercredi à Libreville. Le point avec notre envoyé spécial à la CAN, Timothée Donangmaï.
Rien n'est joué dans ce groupe A ici à Libreville où les quatre équipes ont procédé à un partage de points en première journée à la faveur de deux matchs nuls. La deuxième offre l'occasion de se démarquer et en premier match ce soir, le Gabon croise le fer avec le Burkina Faso. Les Panthères gabonaises n'ont pas vraiment convaincu le 14 janvier dernier lorsqu'elles ont laissé filer l'occasion d'engranger trois points face à une équipe bissau-guinéenne qui fait ses débuts à la CAN et qui manquait visiblement d'expérience. Contre les étalons du Burkina Faso, la tâche ne sera pas facile, même avec le soutien du public gabonais. Après le nul du Burkina face au Cameroun, le coach burkinabé Paulo Duarte avait dit que ses attaquants n'avaient pas tout à fait compris sa stratégie. Aucun doute qu'il a fait quelques ajustements pour rectifier le tir ce soir. En second match, Cameroun-Guinée-Bissau, trois points presque assurés pour les Lions indomptables, mais attention, les Licaons bissau-guinéens ont probablement tiré les leçons de leur match nul contre le Gabon et pourraient donc se montrer beaucoup plus entreprenants ce soir.
Hier, dans la poule C, le Ghana a réussi son entrée dans la compétition grâce à un pénalty transformé en première mi-temps par Andrew Ayew. Les Black Stars, vice-champions en titre, ont pris le meilleur sur l'Ouganda par le plus petit des scores, 1-0. Suffisant pour les Ghanéens pour prendre la tête du groupe D localisé à Port-Gentil. Et ce, en raison du match nul 0 partout entre le Mali et l'Égypte. Les Aigles maliens et les Pharaons égyptiens ont fait jeu égal et chacune des deux équipes aurait pu l'emporter sur une pelouse difficile. Timothée Donangmaï.
Le Mali et l'Égypte ont coupé la poire en deux, se quittant sur un score vierge. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué de part et d'autre. À travers un interprète, le coach des Pharaons, Hector Raoul Cooper.
Le Mali a des joueurs d'un plus grand gabarit. Nous avons tenté de contrôler le jeu en vain. Nous avons mieux joué en seconde période, mais nos joueurs étaient trop fatigués.
Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles du Mali, lui aussi a reconnu que l'adversaire était tenace.
Je pense que ça a été un match assez équilibré contre une bonne équipe. Bien sûr qu'on a espéré la victoire. C'est surtout le résultat nul, pas logique. On a bien fini cette rencontre. En tout cas, moi j'apprécie l'organisation de notre équipe dans cette rencontre et surtout qu'on se soit mis au niveau de la compétition dans cette première rencontre.
En deuxième journée du groupe D, défi de taille pour les Maliens face aux Ghanéens. Tâche peut-être plus aisée pour les Égyptiens contre les Grues Ougandaises. Timothée Donangmaï, Port-Gentil, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Mali, un kamikaze s'est fait exploser aujourd'hui dans un camp militaire de Gao dans le nord du pays, faisant des dizaines de morts et de nombreux blessés d'après les sources sécuritaires. Le bilan est de 37 morts, a affirmé à l'AFP une source militaire au sein de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. L'information a été confirmée par une source administrative à Gao. Le camp abrite des troupes gouvernementales ainsi que les membres de divers groupes armés qui effectuent ensemble des patrouilles mixtes dans la ville en vertu d'un accord de paix soutenu par l'ONU. Et toujours au Mali, les magistrats entament une grève illimitée à compter d'aujourd'hui. La décision d'arrêter le travail a été prise au cours d'une assemblée générale commune des deux syndicats des magistrats maliens. Les précisions de Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du syndicat autonome de la magistrature au Mali.
Nous allons prendre toutes les dispositions pour faire voter une résolution contre l'État du Mali par rapport à son manque de respect pour ses engagements internationaux et par rapport à ses violations répétées des principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons pas accepter que ce gouvernement se comporte de cette façon. Voici ce gouvernement qui dit on fait comme ça, on accepte. Au moment de l'exécution, c'est d'autres arguments. Donc il faut qu'on en termine avec ça. Nous sommes entièrement décidés et nous sommes prêts à supporter toutes les conséquences.
Cheikh Mohamed Chérif Kone, président du syndicat autonome de la magistrature au Mali. Crise en Gambie, un millier de touristes évacués du pays après la décision du président sortant Gambien Yahya Jammeh de décréter l'état d'urgence, ce qui fait craindre des violences. Au pouvoir depuis un coup d'État il y a 22 ans, Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir malgré sa défaite à la présidentielle de décembre. Le Nigeria et les autres pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, préparent une intervention militaire pour qu'il remette son mandat le 19 janvier comme le veut la Constitution. Le président élu, Adama Barrow, se trouve actuellement au Sénégal. Il pourrait être investi comme président de la Gambie à l'ambassade gambienne à Dakar, qui est techniquement en territoire gambien. Nigeria, les opérations de secours se poursuivent aujourd'hui dans le nord-est du pays où un camp de déplacés a été bombardé par erreur par l'aviation nigériane, faisant au moins 52 morts et plus de 120 blessés, selon Médecins sans frontières. Hôpitaux publics, médecins et ambulances de Maïdougouri, la métropole du nord-est et le berceau des islamistes de Boko Haram, sont en alerte dans le cas d'un plan d'urgence médical déclenché par les autorités de l'État de Borno. Les frappes aériennes ont eu lieu mardi à Ran, dans le nord de l'État de Borno, alors que les humanitaires distribuaient de la nourriture aux déplacés qui sont forcés de fuir les violences.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En RDC, la majorité présidentielle exige la part du lion dans le partage des postes du gouvernement qui sera issu de l'accord du 31 décembre. Elle demande à la conférence des évêques catholiques, les médiateurs de la CENCO, de tenir compte du poids politique de chacun au prorata de la représentation à l'Assemblée nationale. Christophe Colomoni est le secrétaire national du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie.
Les choses se passent sous les auspices de la CENCO. Nous ne pouvons pas vous préciser combien de postes, mais nous avons émis ce vœu-là de tenir compte de la représentation ou du poids politique du parti en présence. Il serait important peut-être de tenir compte de ce partage-là en passant par une formule mathématique de pondération par rapport à la représentation au niveau du Parlement.
Christophe Colomoni, secrétaire national du PPRD, le parti du président Joseph Kabila en RDC. Zimbabwe, 6 personnes qui assistaient à une veillée funèbre ont été tuées par la foudre alors qu'elles s'étaient abritées sous un arbre pour se protéger de pluies torrentielles. C'est ce qu'annonce la police. Des pluies diluviennes se sont abattues ces derniers jours au Zimbabwe, provoquant des inondations et la mort de plusieurs personnes qui tentaient de traverser des rivières en crue. On passe maintenant à l'actualité hors d'Afrique. L'accord sur le nucléaire iranien est un sujet d'inquiétude pour l'Union européenne, qui a contacté de manière informelle l'équipe du président élu américain Donald Trump. Objectif, dissiper tout malentendu. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Signé en juillet 2015 par Téhéran et 6 pays, dont les États-Unis, la Chine, la Russie et la France, l'accord nucléaire iranien est aujourd'hui sur la sellette. Dans un entretien à deux quotidiens européens, Donald Trump avait dit y voir, je le cite, « un des pires accords jamais conclus, un des plus stupides », tout en refusant de dire s'il allait ou non le remettre en question. Les contacts pris par l'UE avec la future administration américaine visent à expliquer la valeur ajoutée de l'accord. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source diplomatique européenne qui n'a pas souhaité être identifiée. L'accord nucléaire iranien est un accord multilatéral, c'est-à-dire que si un des signataires décide de s'écarter, d'autres peuvent lui emboîter le pas. Un accord très important pour l'UE qui souhaite éviter une potentielle crise majeure dans la région. Le 16 janvier 2016, une grande partie des sanctions internationales frappant l'Iran ont été levées en échange de la limitation de son programme nucléaire, comme l'avait prévu l'accord signé 6 mois plus tôt.
Et ici aux États-Unis, le président sortant américain Barack Obama tiendra aujourd'hui sa dernière conférence de presse en tant que président du pays. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche hier à 3 jours de l'entrée en fonction du républicain Donald Trump. Et puis l'ex-président américain George H.W. Bush, qui a 92 ans, a été de nouveau hospitalisé à Houston dans l'État du Texas. C'est ce que rapportent aujourd'hui plusieurs médias. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.